philosophie de la famille par le père Marie-Dominique Philippe à Rimont le 3 octobre 1994. Second cours.
Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a dit tout à l'heure?
Le problème dans les familles, c'est que le père est au travail, il revient le soir. Il a envie, c'est d'embrasser ses enfants, c'est pas d'être sévère avec eux. Et en fait, la difficulté...
Ça dépend. Si les enfants sont de mauvaise humeur, quand le père rencontre, il désire les embrasser. Mais les enfants sont assommants et le père exerce son autorité.
Oui, mais s'ils sont assommants avec leur père, ils sont aussi assommants avec leur mère.
Ah, ils ont commencé à être assommants avec leur mère.
Oui, et ils continuent. Si vous la difficulté, j'en parlais avec des pères de famille là, il y a 2 semaines,
oui.
C'est qu'ils n'ont pas du tout envie, quand ils arrivent à la maison, d'être le père fouettard.
Mais c'est évident, ils ont raison.
Voilà. Donc c'est difficile pour eux, pour un père qui est souvent absent, de garder à la fois la sévérité et l'amour.
C'est sûr. C'est parce que justement, s'il était un véritable éducateur, il saurait le faire.
Oui, mais c'est pas naturel.
Ça s'acquiert. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas naturelles. La métaphysique. Et ça s'acquiert. La vertu, ça s'acquiert. Et l'art s'acquiert. Et l'éducation est un art. Et ça s'acquiert. On ne naît pas éducateur. Mais on a tout ce qu'il faut pour l'être.
Donc vous pensez que des parents aujourd'hui... par leur seule expérience et l'intelligence peuvent acquérir l'art de l'éducation.
Mais, on devient des parents. On a le temps progressif. C'est qu'ils ne sont pas suffisamment conscients de leurs responsabilités. C'est ça. On pense que tout va bien, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, très bien. Oui. C'est la femme de la fontaine. Témoignage qui est plus qu'un art, hein. C'est une vie. vie. Et ça, c'est vous, hein, dans une recherche de la vérité. Puis vous essayez de la communiquer aux autres. La communiquer aux autres, c'est savoir comment on peut la communiquer. Et là, il y a un art. Il y a un art qu'on apprend progressivement. Il y a un art de l'éducation pour essayer de former un homme. Alors la question posée est très intéressante. Elle n'a pas été beaucoup traitée. Ben, j'ai jamais traité, c'est vrai. Je regrette. Parce qu'on voit ça, et puis on se suffit. Mais on l'a vu. soi-même à faire l'expérience. Si on n'a pas l'expérience de ça, on peut pas. C'est très vrai. Parce que les limites de l'efficacité sont tellement différentes de l'un à l'autre. Pour certains, les limites de l'efficacité, c'est pour arriver très vite. Parce qu'il y a très peu de recul. Tandis que pour d'autres, non. Et puis c'est pas la même chose quand on a 45 ans, ou quand on a 30 ans, ou quand on a 18 ans. C'est pas la même chose du tout. Bon. Il y a la même chose au point de vue éducatif. Je ne peux être un bon éducateur que si j'ai compris ce qu'était la personne humaine et l'équilibre de la personne humaine. Si j'ai compris ce que c'était que la vertu, ce que c'était que la responsabilité, ce que c'était que l'intelligence pratique de la prudence. Autrement, je ne peux pas être un bon éducateur. C'est comme si on demandait à quelqu'un d'être médecin sans connaître l'organisme humain. Il doit connaître les réactions du concupiscible et l'irascible au point de vue de son psychisme. Il doit connaître comment l'imaginaire s'empare d'une façon très nette quand les passions sont un peu plus violentes. Les passions éveillent l'imaginaire et se nourrissent de l'imaginaire. Il faut pouvoir leur distinguer à ce moment-là ce qu'il y a d'imaginaire dans nos passions et ce qu'il y a de réel. Avoir faim, ça c'est l'instinct. Mais dès que vous avez faim, il se mêle le concupiscible. Je veux manger. Et manger des choses bonnes, j'en ai besoin. Et alors on doit connaître les rapports du concupiscible et l'irascible. Et l'imaginaire, si, c'est pas commode à connaître. Ça met du temps. Mais si j'ai pas ça, comment voulez-vous être un éducateur? C'est impossible. C'est pour ça que on peut pas être un éducateur si on est trop jeune. Et d'autre part, c'est très bon de commencer jeune. Parce que ordinairement, on ne peut développer l'art éducateur que s'il y a une matière devant nous. S'il n'y a pas de matière, on thésaurise spéculativement. On n'est jamais en pratique. Et si on commence trop tard, on a trop peur. Tout le monde dit, n'est-ce pas, qu'à partir d'un certain âge, c'est très difficile pour un homme qui n'est plus un jeune homme de se marier. Tout le monde sait ça. Et c'est la même chose au point de vue de la vocation. On se décide très vite quand on est jeune. On a une peine énorme à se décider quand on a dépassé 35 ans. C'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus. Et il arrive un âge où on n'arrive plus à se décider. Sauf s'il y a un orage qui vous tombe sous les pieds. On dit, il est temps de changer parce que j'aurais pu y passer. Alors il faut quand même avoir fait quelque chose dans sa vie. Autrement, non. Oui, donc, c'est bon de commencer jeune, éducateur. Parce qu'on a tout de suite ce souci de l'autre et de la matière de l'autre. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'art d'éducateur et l'art médical? C'est que l'art de l'éducateur porte sur un psychisme. Porte sur l'esprit qui commande le psychisme et porte un obstacle, il dira ah, je peux plus. Impossible. Ça vous claque dans les doigts. Et ça, c'est vrai, on voit ça. C'est très net. Dès qu'il y a un obstacle. Parce que c'est quand on est en face d'un obstacle. Alors, l'éducateur, vous voyez, c'est quelque chose de plus complexe encore que le médecin. Mais l'éducateur a besoin d'un médecin. J'ai besoin de temps en temps de pouvoir dire à quelqu'un dont je suis responsable ses difficultés. Est-ce que ça provient de sa santé, de son physique, ou est-ce que ça provient d'un manque de volonté? C'est pas si commode que ça de faire le discernement. Quand quelqu'un est fatigué, on s'aperçoit tout de suite quand on le connaît. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es fatigué aujourd'hui, d'habitude tu fais ça tellement facilement. Puis là, obstacle. Ah, alors, dis qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai pas dormi cette nuit. Alors, c'est pas étonnant que je suis comme ça. Parce que si j'étais plus vertueux, je dépasserais ma fatigue, mais je n'arrive pas. Et c'est vrai, ça, c'est, on voit les limites de la vertu au niveau de la fatigue. Quelqu'un qui a une vertu très très pauvre, dès qu'il y a la moindre fatigue, la moindre maladie, humeur de chien. Tandis qu'au contraire, quelqu'un qui est vraiment, qui domine un peu la situation, avec la prudence, avec la tempérance, avec la force, domine. Alors on lui dira, fais attention, ne tire pas trop dessus. Bon, c'est très bien, on le sait, et c'est vrai, il y a des limites, même à la vertu. Parce que quand la cause matérielle vous échappe, il n'y a plus moyen de rien faire. On construit toujours sur un terrain. On n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut créer. Et il faut la toute puissance pour créer, comme on l'a, Saint Thomas nous le rappelait ce matin. Nous, notre efficacité, elle est terriblement limitée. Elle dépend de la matière de l'autre. Mais il faut cette coopération constante. Et pour qu'il y ait coopération, il faut qu'il y ait tout le temps la confiance. Et c'est pour ça que le niveau de confiance doit tout le temps augmenter. Et lorsqu'il y a un acte héroïque, on demande à quelqu'un, alors à ce moment-là, on commence par lui rappeler toute la confiance qu'on a en lui. On chauffe le moteur. Eh ben, et il faut, c'est absolument nécessaire. Tu sais bien, toute la confiance, je suis dans une situation très difficile, très très difficile. Alors là, je demande à toi parce que tu es l'unique. Alors avant, à ce moment-là, vite, on a remonté, c'est le vieux moteur. Et ce qui est bon, c'est que c'est vrai. C'est pas de la flatterie, c'est pas de la flatterie, c'est la réalité. Il faut coopérer. Oui, c'est comme c'est l'art de l'éducation, il faut se servir de son cheval, quoi. Et on sait qu'il faut le flatter à des moments, il faut le caresser, tout le monde en revient d'un tout. C'était toujours ça, c'est l'art du dressage, l'art de l'éducation. Il y a ce point de vue fondamental de la confiance. Alors ça, vous voyez, c'est l'amour. C'est l'amour. Et c'est un amour gratuit, fort, qui permet cette confiance et qui maintient cette confiance. Et c'est à l'intérieur de cette confiance alors qu'on peut éduquer. Condition sine qua non pour qu'il y ait éducation. Vous voyez, c'est déjà vrai pour le médecin. On a tous des amis médecins. Et c'est bon d'avoir des amis médecins. C'est très utile d'avoir des amis médecins. Parce qu'ils nous disent toujours des tas de choses qu'on a besoin de connaître. Et puis de voir comment ils sont médecins, la miséricorde qu'ils ont. Et la manière dont ils savent qu'être un médecin, ce n'est pas un étranger pour le malade. C'est un personnage très important pour le malade. Mais il faut se faire admettre en créant des petits gestes de confiance, d'amitié. Il faut aller rapidement. Quand on convient à un médecin, un malade ou un médecin, il faut que ça s'inscrive vite. À la différence de l'éducateur, parce qu'ordinairement, l'éducateur, c'est quelque chose qui se prolonge. Alors,
l'élevage, le dressage ou la médecine?
Le dressage.
Parce que vous voyez, on pourrait dire que l'éducation, c'est un dressage, sauf que la matière est vivante et intelligente.
Non, c'est parce que c'est une personne. C'est une personne qu'on doit éduquer. Et une personne qu'on doit éduquer, je ne peux l'éduquer que moi-même si j'ai ma expérience et la connaissance de ma personne. Autrement, je ne peux pas éduquer. Et c'est la prudence qui me fait ça, connaître ça. Et donc, et la prudence implique une finalité. C'est pour ça que ceux qui veulent garder cette objectivité absolue, voyez, je pense à cette lettre qu'on a vue ensemble, vous savez, dans le livre de Camus. Cet instituteur qui dit, j'ai toujours gardé l'objectivité la plus absolue. Un instituteur laïque. J'ai voulu garder l'objectivité de la plus... C'est-à-dire, j'ai dû parler de Dieu, puisque c'est dans le programme. J'ai dit, il y a des gens qui croient en Dieu, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. J'ai dû parler de la religion, il y a tel gens, et il y a même des gens qui ne sont pas religieux. Chacun ayez votre religion. Chacun ayez votre vérité. Comme si la vérité était quelque chose de subjectif et dépendait de mon choix. Mais là, c'est une erreur grave. Oui.
Est-ce que c'est pas aussi le fait de supprimer l'aspect de la cause exemplaire
que... C'est plus que la cause exemplaire.
Donc on ne veut pas être un exemple.
La cause exemplaire présuppose la finalité. Ce que je vous disais tout à l'heure. Toujours chez l'éducateur, chez celui qui est éduqué, la cause exemplaire passe avant. Mais chez l'éducateur, non. Alors je parle de l'éducateur ici, je parle de l'habitus d'éducateur. Vous voyez ? Et quels sont les éléments qui sont dedans ? Vous voyez ? La confiance, c'est l'amour. La prudence, c'est la finalité. Et les moyens, c'est la cause exemplaire. Il y a les trois niveaux. Mais il ne faut pas télescoper. Vous voyez ? Bon. Je dis, le milieu de confiance, ça c'est l'amour. De personne à personne. Ensuite, il y a le point de vue de savoir où je vais. C'est la finalité. Et c'est la finalité que je connais par la prudence. Et là, si je n'ai pas de finalité comme éducateur, voyez, si par souci d'objectivité, je ne veux pas de finalité, chacun sa vérité, c'est faux. C'est pas chacun sa vérité.
Mais justement, est-ce que c'est pas à ce niveau-là qu'on pourrait discerner la différence entre l'instruction et l'éducation ?
Les mêmes instructions.
Les mêmes. C'est le problème.
Parce qu'il y a la vérité. Oui. Là, on a fait une séparation. Vous voyez, avec la laïcité, on a fait une séparation qui n'est pas juste. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant, il n'y a plus personne. Il n'y a plus d'éducateurs. Et il n'y a plus de personnes qui savent enseigner. Vous voyez, cette question que j'ai trouvée tellement belle quand le Saint-Père est passé à Fribourg. Il a fait son discours, puis après on a demandé, alors, qu'est-ce que vous pensez ? Puis alors, cette étudiante, il a dit, très Saint-Père, comment se fait-il que nous avons des professeurs, mais nous n'avons plus de maîtres ? Un maître, c'est celui qui enseigne en éveillant l'intelligence. Pas seulement. Oui. En 68, quand il y a eu la crise, on l'a eu à Fribourg. Alors c'était très, très curieux et très intéressant, parce qu'à Fribourg, on pouvait réfléchir là-dessus, on connaissait tous les étudiants. Alors, le comité révolutionnaire, mené par un Italien communiste venu à Fribourg pour faire sauter la faculté de philosophie de Fribourg, a dit, nous attendons de nos professeurs des informations. Alors, là-dessus, on a répondu, des informations. Oh, il y a des bons dictionnaires. Alors, c'est vous les informations, ça. Le professeur n'est pas fait pour être uniquement celui qui informe, il doit savoir. Mais il doit aussi être bien plus que cela. Il doit éduquer votre intelligence et l'éveiller. Et l'information n'éveille pas. Et on doit être un éveilleur d'intelligence, aussi bien dans les sciences mathématiques que dans les sciences philosophiques, que dans les sciences biologiques. On éveille pour donner l'amour de la vérité. Et c'est cet amour de la vérité éveillé pour l'autre. Donc il faut une prudence suffisamment forte pour pouvoir éveiller. Et ça, c'est capital. Et on ne peut éveiller que si on connaît la matière devant laquelle on se trouve. On a vu les difficultés. On a vu quelqu'un de très très passionné. Bon, alors, on saura que c'est une passion de concupiscence ou d'irascible, facile à découvrir. Et puis, on essaiera, à l'intérieur de cette passion qui se lie à l'imaginaire, découvrir, lui faire découvrir la limite de cela. Et comment la passion peut être un obstacle. La passion peut vous porter, peut vous aider, mais la passion, quand elle devient l'absolu, devient un obstacle. On ne peut pas aller plus loin. Ça devient un mur. Alors, il faut attendre le bon moment. In tempore opportuno. Le temps opportun où quelqu'un s'est cassé la tête. On peut l'avertir avant. Mais souvent, ça dépend à quel âge. Ça dépend à quel âge. Je crois qu'il y a les petits-enfants qu'on peut avertir et ils comprennent s'ils ont grande confiance. Ça peut aller jusqu'à un certain âge. Quand il y a une vraie confiance. Mais il y a un moment où, quand on parle de l'âge bête, c'est bien ça, hein, on n'entend plus. On veut expérimenter la chose. Ça va très loin. On va expérimenter la chose. J'ai entendu des jeunes filles me dire, revenant de vacances, j'attends un enfant, je voulais avoir l'expérience. T'as pas long. Elle me dit, oui, mais vous êtes responsable. Si votre expérience n'engageait personne dans un jeu, très bien, mais c'est pas un jeu d'aimer, c'est plus un jeu de se donner à quelqu'un. Et au fond, aujourd'hui, on a fait beaucoup de mal dans l'éducation quand on a parlé toujours ad experimentum. Moi, je crois que c'est très dangereux. Il n'y a pas d'ad experimentum dans l'amour. Il n'y a pas d'ad experimentum dans l'éducation. C'est faux. C'est dans le jeu qu'il y a ad experimentum. Vous voyez, c'est un peu. Et ça, je crois que c'est un des défauts terribles de notre monde d'aujourd'hui. C'est qu'il y a confusion entre le faturé et la durée. Oui. Confusion entre sincérité et vérité. Confusion entre le moindre mal, qui peut être vrai en politique et qui n'est pas vrai, en éthique personnelle. C'est passé de l'éthique politique à l'éthique personnelle. Et il y a ce fait ad experimentum. Il n'y a pas d'ad experimentum dans l'amour. Ah, je vais voir ce que c'est que d'aimer. Mais non, on aime. Et quand on aime, c'est plus je veux voir ce que c'est. Parce que c'est plus l'amour. Il y a certaines choses qui sont des sources. Et qui ne sont pas des robinets. Et qu'on doit donc respecter la différence entre la canalisation et la source. Et quand il s'agit d'aimer, ce n'est pas une canalisation. C'est une source. Et l'éducateur doit découvrir où il peut y avoir des sources qui apportent quelque chose de nouveau et qui dépassent. Beaucoup plus élevés qui peuvent se séparer. Mais alors, on fait la séparation. sentent le besoin.